Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. On s'intéresse au pétrole. Nous avons passé le 1er juillet cette semaine et le Brent a atteint 110 dollars le baril à cause des inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement des marchés pétroliers. Ceci dû aux sanctions qui ont été imposées à la Russie. L'OPEP et ses alliés ont annoncé une augmentation prévisionnelle de 200 000 barils par jour afin qu'il y ait plus de production et donc que mécaniquement les prix baissent. Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars dans des projets de capture et de stockage de carbone. L'Arabie Saoudite, par ailleurs, a lancé FinTech Vision 2030, qui est un programme qui vise à faire du pays le cœur des technologies financières. La Banque Centrale d'Égypte a relevé son taux directeur de 1%, toujours pour lutter contre l'inflation. Et pour ce qui est du nombre de touristes qui visitent Dubaï en ce mois de juin 2024, ceux-ci ont augmenté de 25%. Par rapport à 2023, ce qui est une augmentation tout à fait conséquente. Les marchés boursiers dans le monde ont enregistré une petite baisse de 2%. On est toujours en fait dans des craintes de récession. Le FMI, lui, a révisé ses prévisions de croissance, toujours à la baisse, un petit peu à la baisse, toujours dans cette logique pour réussir à combattre l'inflation. Nous avons eu des élections en France, tout à fait importantes, des élections législatives. Le premier tour, c'était dimanche dernier, le second tour ce sera ce dimanche, avec finalement le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, qui sont des formations de gauche et de droite, qui ont des programmes économiques tout à fait intéressants et instructifs. On va les détailler avec Michel Ruimi, qui est un économiste reconnu, qui connaît parfaitement bien et qui a lu surtout les programmes des uns et des autres. C'est vrai, Michel Ruimi, qu'on a aujourd'hui en France, en tout cas pour l'avenir, hein, pour ce que sera ce lendemain d'élection législative, on est vraiment aujourd'hui face à deux programmes économiques qui ont des points de convergence, mais qui ont vraiment des idéologies qui sont portées par des canevas idéologiques qui sont très 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 différents les uns des autres.
Ben, tout à fait, que ce soit que le programme du nouveau Front Populaire ou du Rassemblement National, ce sont deux projets de société qui veulent distribuer de l'argent que la France n'a pas. Alors que la France, a un déficit et une dette insoutenable. Et c'est ce qu'il convient de saisir. Et ce qu'il convient aussi de saisir, c'est que à côté de cela, quelle que soit l'issue du scrutin, la France devra clarifier rapidement sa stratégie, notamment en stratégie budgétaire. Et ça, parce que dans les deux programmes, personne ne parle de stratégie budgétaire, alors que le vainqueur va hériter de plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Et donc, ça risque d'impacter lourdement, je dirais, la société française, parce que ce sont des projets de société. On nous demande, on nous vend, entre guillemets, comme tout programme, des belles choses, mais derrière, il y a des conséquences financières, et est-ce qu'on est prêt à accepter tel ou tel programme?
Parce que c'est vrai que ce sont deux projets de société qui sont finalement totalement différents, mais qui ont un point en commun, c'est celui de faire des promesses en termes de monnaie sonnante et trébuchante qui sont tout à fait conséquentes, par exemple sur le régime des retraites, que l'on n'a toujours pas réussi à résoudre. C'est-à-dire, on n'a toujours pas le modèle qui nous permettrait d'être généreux avec nos anciens et d'avoir des comptes qui soient au moins à zéro. C'est vrai, peut-être nous présenter quand même ces deux programmes, parce que à la fois, c'est très intéressant, les philosophies politiques sont totalement différentes, mais on retrouve quand même de vrais points communs en termes de largesse budgétaire.
Alors, tout à fait. En fait, il y a deux points communs, on va dire, oui, importants. C'est la notion de pouvoir d'achat et la notion de financement des retraites, notamment à 60 ans. Donc la question qui va se poser, c'est après, il y a ici ou là d'autres aspects plus ou moins détaillés. Mais en termes de pouvoir d'achat, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que le Front Populaire veut rapidement, on va dire, faire un blocage des prix, notamment de certains prix alimentaires,
mais pas tous,
ouais, qui posent, des questions sur quels produits alimentaires, et ça veut dire quels produits précisément, parce que blocage des prix veut dire d'être plus précis à un moment donné, qu'on va avoir une augmentation du SMIC net qui va être de 200 euros.
Oui, c'est beaucoup.
Et donc, concernant le programme du Front Populaire, nous avons un blocage des prix de certains produits. Ce qu'il faut bien voir, c'est notamment des produits de première nécessité essentielle. Ce qui pose problème, ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'aucun producteur et même commerçant ne voudra vendre à perte puisqu'il n'a pas l'envisage, il n'envisage pas de recettes supplémentaires. Donc il risque de détourner vers d'autres produits où il a des marges bénéficiaires. Mmh. Donc ce qui veut dire que ces produits risquent de devenir plus rares et donc de créer une pénurie, donc de retomber dans une inflation, et ça peut poser des problèmes. Deuxième chose également, en termes de pouvoir d'achat, augmentation du SMIC à 1600 euros, c'est-à-dire net, c'est-à-dire concrètement
200 euros de plus, hein, en gros c'est 200, ça. C'est...
Ouais. À peu près. Ce qui veut dire, c'est que ce qu'il faut bien saisir, c'est que le tissu productif français est constitué d'à peu près 4 millions d'entreprises, dont 3,9 millions à peu près, qui ont entre 1 et 10 salariés. Donc, ce sont des structures relativement fragiles et augmenter de 200 euros le SMIC, on risque d'avoir des problématiques de structure financière pour ces petites structures qui risquent de tomber en faillite et avoir des problèmes de gestion.
Ouais.
Donc, bien sûr, en face, à la différence du Rassemblement national, le Nouveau Front Populaire dit bien, c'est très simple. On va taxer les grandes entreprises et on va faire une redistribution là-dessus. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était sur notamment taxer les super-profits, mais ces notions de super-profits, ça passait sur le fait qu'on avait une situation exceptionnelle, notamment, je dirais, la crise sanitaire et la crise énergétique qui ont créé ces super-profits. Demain, a priori, je dirais, il n'y a pas, a priori, je dis bien à ce jour, de crise en devenir, et donc ces super profits risquent d'être moindres. Donc du coup ça pose un problème de financement. Par ailleurs, quand je m'intéresse au Rassemblement national, on voit notamment qu'il veut bloquer notamment le prix de l'essence. Simplement, ce sont des recettes fiscales qui ne sont pas compensées.
Bien sûr.
Donc on voit également aussi qu'il risque d'avoir un manque de financement, quels que soient ces principes-là.
Mais alors, on sait que la France a énormément souffert pour voter le régime des retraites. Alors, la loi, elle est ce qu'elle est, mais c'est vrai qu'en France se pose la problématique de la solidarité envers nos anciens, de telle façon à ce qu'ils puissent vivre, très bien vivre, mais pas trop bien vivre, parce que c'est vrai qu'il y a eu des retraites qui étaient versées dans le passé, qui étaient absolument formidable, alors très bien pour les autres, mais pas bien pour le budget de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se dire que le régime des retraites va être remis à la table, il faut se préparer à ce que celui-ci soit à nouveau révisé, soit par le Rassemblement national, soit par le nouveau Front Populaire?
Mais je dirais que la situation devait être systématiquement être visée après la mandature de monsieur Macron.
Oui.
La situation était ponctuelle jusqu'en 2027 et la situation évolue en fonction notamment de la quantité d'actifs et de la quantité de personnes à faire valoir leur droit à la retraite. Donc la situation n'était pas pérenne, elle devait être revue. La difficulté, et c'était une des mesures de monsieur Macron, c'est de dire, bien, c'est très simple. On manque un problème de financement des retraites. On va demander aux personnes de travailler un peu plus, ce qui ferait qu'il y a un peu moins de retraités et qu'on a un peu plus de recettes.
Oui.
Et en même temps, on dit, ben, si on veut un peu plus de recettes, on est moins social, entre guillemets, on réduit les allocations chômage pour inciter les personnes à travailler, donc à moins de recevoir des allocations chômage et donc d'avoir un peu plus de recettes. C'est pas si simple. On reste dans un schéma très, on va dire, théorique, très de manière Excel, on va dire ça, mais pas réel. Première des choses, augmenter la part de retraite, on va dire, de 2 ans, fait qu'il faut trouver des emplois pour des personnes déjà âgées.
Oui, souvent au chômage, bien sûr.
Qui sont soit en chômage, soit qui n'ont pas les dernières technologies, soit qui ont d'autres problématiques. Première des choses. Deuxième chose, pour ceux qui sont au chômage, dont on réduit, on va dire, les allocations chômage, eh bien, c'est pas parce que vous êtes au chômage par gâté de cœur, c'est que parfois, vous n'avez pas l'emploi qui correspond.
Oui.
Donc, ça pose ce type de problèmes. Donc on voit que, de manière générale, va se poser ce financement des retraites et bien sûr aussi leur financement, parce que annoncé à 60 ans ou à 62, etc., de manière générale, il va poser un problème de financement de ces retraites. Les retraites, c'est à peu près 14 milliards. Donc si on réduit une année ou on réduit deux, ça fait beaucoup à retrouver sur une longue période.
Mais Michel Rémy, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a le sentiment, alors vous me dites si je me trompe, c'est que ou l'un ou l'autre, de toute façon, on va sur un départ à la retraite qui va être anticipé par rapport à l'allongement qui avait été décidé par l'équipe Macron. On y va, c'est sûr, on va sur la retraite à 60 ans des deux côtés.
C'est un projet. Rien n'a été, on va dire, c'est sur des projets. Mais comme tout projet, il y a un temps, on n'est pas obligé de le faire dans les 15 premiers jours. On peut le faire en fin de mandature. Le grand problème, c'est que le premier ministre, ou quel que soit le parti qui va gagner, va travailler pendant 3 ans, à supposer que la France soit gouvernable, je dis bien. Ouais. Si la France n'est pas gouvernable, M. Macron peut redéposer le 10 juin 2025, dire « là, je refais d'autres élections législatives ». Sans à supposer qu'il ne veuille pas se démettre ou quoi que ce soit. Donc la situation est complexe, et c'est-à-dire qu'en 3 ans, ça nécessite beaucoup, beaucoup à remodifier, on va dire, tant la Constitution sur certains parties du programme de Rassemblement National que également aussi sur la revalorisation du SMIC. C'est pas aussi simple que ça, parce que ça doit être signé par le président de la République. Donc ça pose beaucoup de questions constitutionnelles et juridiques qui n'est pas acquis que ceci va passer dans les lois. Donc à mon sens, on risque dans un premier temps de rentrer dans une instabilité pendant la période estivale, du 7 juillet, on va dire du 8 juillet jusqu'en septembre, oui. Et à supposer que tout se passe bien, nous rentrons à ce moment-là dans un éclaircissement, parce qu'à ce moment-là, on verra très bien quelles sont les mesures, et on rentre dans un second cycle d'instabilité, ce sont les marchés financiers, qui risquent de demander à la France des taux d'intérêt plus élevés. Qu'actuellement, aujourd'hui, on est à un peu plus de 3,20%, alors qu'on était il y a quelques temps à environ de 40, de 50. Donc, on voit ce type de problème. Et ce qui veut dire, c'est que si la France est à le pays sans dette à plus cher, eh bien, ce taux d'intérêt va être, répercuté aussi bien sur le taux d'endettement des entreprises et des ménages, et ça risque de ralentir l'activité, parce que les entreprises risquent de pas d'investir et les ménages de pas consommer d'une certaine manière.
Mais Michel Rémy, est-ce qu'on pourrait pas, alors là, mais attention, il faut pas se fâcher avec moi, parce que je vais vous poser la question la plus anodine du monde, mais est-ce qu'on pourrait pas faire comme les Américains et se dire, c'est pas grave, on laisse filer le déficit, et on dépense. Est-ce que, parce que c'est vrai que ce déficit de l'économie française, du budget de l'État, il commence à devenir abyssal. Les Américains en ont un qui est tout à fait significatif. Visiblement, il y a des petites tensions chaque année, mais ils arrivent toujours à s'en sortir. Est-ce qu'on a raison de se crisper pour ce fameux montant de déficit? Est-ce qu'on peut pas faire sans, finalement?
En fait, la grande difficulté qui se pose, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, quelles sont les menaces de la France et de manière générale qui gère, l'Europe. Il y a deux aspects. Oui. Si on regarde première des choses, il y a l'Union européenne. L'Union européenne peut nous a déjà qualifié la France de déficit excessif. Elle va pas envoyer les chars pour reprendre une citation de M. Chirac. Donc on s'en fout d'une certaine manière. Deuxième chose, aspect, la BCE ne peut pas, il y a un aspect particulier, je reviendrai, mais concrètement, elle tient aussi malgré tout à la solidité de l'Union européenne. Oui. Donc elle ne peut pas nous laisser tomber dans une certaine mesure, sauf à si on fait des efforts, on va dire, de gestion budgétaire. Mais elle peut très bien ne rien faire et à ce moment-là nous laisser tomber. Du coup, tout en faisant attention à ne pas mettre en instabilité l'euro et la zone euro, parce que ça poserait des gros problèmes, et malgré tout, elle ne ferait, on va dire, que le juste minimum. Mais le véritable sanction, c'est surtout les marchés financiers. Ils ne peuvent pas nous sanctionner sur la devise puisque nous avons l'euro, donc ils ne peuvent nous sanctionner que sur les taux d'intérêt. Et là, on risque de payer très cher, relativement plus cher, je dirais cette imprudence budgétaire, d'une part. Donc après, la question, c'est qu'aujourd'hui, dans le budget de 2024, les taux d'intérêt sont de 50 milliards. C'est à peu près le troisième poste. Et le grand problème, sans, on va dire, toute cette tourmente, les intérêts auraient été le premier poste en 2027. quoi qu'il advienne. Donc on voit, le premier poste de dépenses budgétaires, donc on voit bien que, associé à une incertitude des marchés financiers, ce poste d'intérêt risque d'être très lourd et donc de devoir gérer, quand je dis 70 milliards, c'est à peu près le budget de l'éducation nationale ou de la défense qu'on paye en intérêt aux marchés financiers, à d'autres institutions.
Donc, oui, mais excusez-moi de vous couper la parole, Michel Rumi, mais est-ce que ça, justement, on ne peut pas en faire le deuil et se dire « Ah ben finalement, c'est pas grave, c'est comme ça, tout le monde s'endette, nous aussi. » Voyez-vous, c'est juste pour aller, si on va jusqu'au bout de cette logique, comment ça se passe là,
sur ma... La question qui se pose, c'est quoi? C'est que le grand problème, c'est quoi? C'est que si on ne rembourse pas, personne ne viendra vous prêter, sauf à un taux démentiel.
D'accord.
La difficulté est là. C'est qu'il y a quelques années, en 2012, lorsqu'il y avait la crise grecque entre 2010 et 2012, les taux de la Grèce, le taux d'intérêt de la Grèce à 2 ans, je dis bien 2 ans, c'est-à-dire
deux ans.
On atteint 165. Oui, pardon, on atteint près de 165%. On n'est pas loin, on est très loin de cette situation. Mais les taux ont atteint des taux exorbitants. Aujourd'hui, quand vous regardez les taux du Venezuela, on est à 10 000%. C'est tout simplement, ça veut dire quoi? C'est pas un taux, personne viendra vous prêter, mais c'est tout simplement l'expression de l'illiquidité de l'emprunteur. On risque d'avoir des taux supérieurs. Déjà, on a tout de suite après, les premiers tours, on a eu des taux qui ont dépassé le taux du Portugal, le taux d'emprunt du Portugal. On va rattraper l'Espagne, on risque d'être très cher. Donc c'est ça la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en fait, notre incapacité à gérer les finances publiques, du moins avec sobriété, nous le payons cash, parce qu'aujourd'hui, ça aurait été un autre problème si la France avait eu un peu plus d'argent et on aurait un problème de projet de société. Mmh. Aujourd'hui, quels que soient ces deux projets de société, on n'a pas d'argent, donc ça va aggraver la situation. Et donc, ça risque de rendre encore plus difficile la réalisation de ces projets de société. Et en même temps, on ne sait pas dans quelle direction l'on va, parce que, tout simplement, il faut amener des recettes et ce n'est pas garanti. C'est
absolument
comme tout investissement.
Mmh. Alors, on a souvent dit que l'Europe, l'Union européenne, avait deux poumons, l'un français, l'autre allemand. Alors, on sait que c'est peut-être de moins en moins vrai, mais avec ce que vous nous annoncez, l'analyse que vous nous proposez, que vous partagez avec nous, Michel Rumi, est-ce que la France peut rester l'un des poumons importants de l'Union européenne, ou est-ce que là encore, il faut, alors sans tomber dans l'auto-bashing gaulois qu'on connaît bien, mais est-ce que quand même la France peut réussir à garder, non peut-être pas son leadership européen, mais en tout cas c'est une nation qui compte. Comment faire pour s'en sortir avec des chiffres pareils?
La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tout est question d'argent, quel que soit le type de société, et c'est celui, dans une certaine mesure, qui est le plus riche, qui peut imposer sa vision. C'est un peu réducteur, mais c'est un peu cette idée-là. Lorsque l'Allemagne va discuter, c'est elle qui a la santé économique la meilleure de l'Europe, de l'Union européenne, donc elle va pouvoir imposer de dire « voilà ce que je veux ou ce que je ne veux pas ». Et c'est ce qui va poser problème. La France, d'une certaine manière, va retrouver les problématiques à un moment donné de la situation de, au moment de la Grèce, on avait appelé les pigs. Portugal, Irlande, Grèce et Espagne. Mais on risque d'avoir de rentrer dans cette situation alors que les autres vont sortir, on va dire. Donc ça risque de poser ce problème. Donc la place dans l'Europe aujourd'hui, on a été fondateur, mais on paye aujourd'hui les errements du passé et nous sommes les générations futures, des générations passées, et donc on paye d'autres errements ont été faits dans le passé.
Mais l'Union européenne aujourd'hui est soumise à des défis géopolitiques, sécuritaires. Elle a besoin de cash pour mener la guerre. Enfin, elle est coactrice de facto du combat en Ukraine. Elle a encore des engagements vis-à-vis de pays africains, au Maghreb notamment. Elle est encore partenaire de l'Asie, de la zone Amérique. L'Union européenne, on sait qu'elle c'est pas la banqueroute, mais elle est suffisamment solide, elle a les reins suffisamment solides pour avoir l'un de ces pays, un pays important, la France, qui est dans une phase d'incertitude. L'Union européenne peut tenir malgré tout.
Oui, dans une certaine mesure. C'est sûr que l'Union européenne est soumise à de fortes tensions géopolitiques, entre notamment ce qui se passe entre les États-Unis, la Chine, le Moyen-Orient. Il y a pas mal, elle est prise dans certains enjeux importants. Mais C'est comme, je vais prendre l'analogie de la famille, vous avez un membre influent de la famille qui est en situation difficile, mais la famille va continuer. La grande difficulté, il ne faudrait surtout pas que plusieurs autres membres de la famille tombent en difficulté.
Ouais.
Et c'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, la France va payer un peu cette incurie de budgétaire, mais la grande difficulté, c'est si l'Italie ou l'Espagne remonte, eh bien, on tiendra la route. C'est toute la notion, en fait, que l'Europe ne peut pas, du moins l'Allemagne ne peut pas, à elle toute seule, faire tout pour que, notamment, l'Europe fonctionne, d'autant plus que, première des choses, c'est que l'Europe n'est pas un continent homogène en termes de production, de niveau de vie, puis en même temps au niveau des orientations politiques que l'on doit donner. Lorsqu'on voit Orban à devoir travailler avec la montée de l'extrême droite, aussi bien en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, avec la Hongrie, avec en même temps la Pologne, ça pose des problèmes parce que quelles sont la problématique de ces pays, de la montée de l'extrême droite, c'est que d'une certaine manière, on remet plus ou moins petit à petit les politiques européennes vers plus de souveraineté et moins vers, on va dire, un certain universalisme.
Alors vous évoquiez la Grèce, même si la situation française et grecque n'ont absolument rien de comparable. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire par exemple que la Grèce, à la crise qui est derrière elle, elle a réussi à passer entre les gouttes? Est-ce que ceci en analogie avec la France, en se disant on peut aussi accepter l'idée que il va y avoir quelques mois, quelques trimestres, peut-être même quelques années qui vont être difficiles, voire très difficiles, mais on va s'en sortir. Je veux dire, par exemple, les Grecs, eux, aujourd'hui, on peut partir du principe que l'affaire est réglée ou pas ?
Non, elle est en convalescence. Elle a fait une lourde opération qui s'est traduite par notamment une baisse des salaires et des retraites de près de 25%. Elle a remis une restructuration. On peut se rapprocher également aussi dans les pays des pigs que j'ai parlé. Il y avait le Portugal et l'Espagne qui aujourd'hui sont en bien meilleure santé que par le passé. Aujourd'hui, en fait, pourquoi elles sont mieux ? Parce qu'elles ont fait des réformes structurelles, c'est-à-dire que notamment elles ont remis le fait qu'il faut remettre l'économie française sur les bons rails, ce qui passe par, alors je ne fais pas de politique, travailler un peu plus parce qu'on a, si on veut garder le modèle social, je dis bien, travailler un peu plus pour financer les retraites, redévelopper réformer le poids de l'État, parce qu'aujourd'hui, la masse salariale de l'État est importante, mais ce qu'il faut bien faire aussi, attention, la grande difficulté, c'est qu'il faudrait peut-être revoir un peu le nombre de fonctionnaires, mais en faisant attention de réallouer ce nombre de fonctionnaires, de trouver peut-être un nouveau statut, mais c'est pour cela que, de manière générale, auparavant, avant le poids de la dette, le deuxième poste, c'est le poids de l'État, mais ça veut dire aussi de redéfinir quel rôle doit tenir l'État, et ça veut dire également aussi de définir qu'est-ce que relève de la solidarité et que relève de l'assistanat. Et ça, tant qu'on ne passe pas par ces étapes-là, avec un accord de toutes les parties, c'est-à-dire de la population, du citoyen et du contribuable, eh bien, on ne pourra pas s'en arriver. Tous les pays qui ont fait et qui arrivent à s'en sortir ont fait des réformes de structure, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à modifier fortement, je dis bien fortement, l'économie française au sens large. On fait toujours un fleuret de jeter, c'est-à-dire petit, mais en fait, il faudrait avoir, on risque d'avoir des tensions sociales et des frustrations qui risquent de mener à une instabilité, et bien de revoir un peu le modèle économique que nous avons.
Merci Michel Ruimi, merci beaucoup pour l'ensemble de ces explications. On fait une petite escale au Maroc avec ce montant des transferts des MRE qui se sont élevés à 46,38 milliards de dirhams. C'est beaucoup, hein, c'est la première fois que cela n'était pas arrivé depuis la pandémie de Covid-19. À quoi correspondent ces transferts et surtout à qui cela profite-t-il? Je vous propose d'écouter la réponse de Adil Hilmi. Il est économiste, rédacteur en chef du média boursenews.ma et il répond au micro de Mélanie Pinto.
C'est un indicateur très important pour notre économie parce que ces transferts d'argent permettent de soutenir le pouvoir d'achat des familles, donc des Marocains qui sont vivants à l'étranger. Quand vous avez un résident en Espagne, en Italie, en France, qui envoie des liquidités vers sa famille au Maroc, ça permet à cette famille-là qui est restée au Maroc, généralement dans des régions rurales, mais pas que, hein, il y a beaucoup aussi de familles de MRE qui sont dans les régions urbaines, d'avoir des liquidités pour consommer, pour soutenir leur pouvoir d'achat, pour faire face à des besoins de liquidité des fois urgents. Et on a mesuré vraiment l'importance de ces transferts au moment de la pandémie, parce que c'est à ce moment-là que ces transferts ont vraiment explosé. On a passé un cap, on a atteint pour la première fois la barre des 100 milliards de dirhams. C'était au lendemain de la pandémie. Eh bien, cet argent-là est venu au moment du premier confinement pour donner des liquidités aux gens, pour permettre à beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, surtout sur des activités saisonnières, etc., eh bien, de continuer d'avoir du cash sous la main pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir vivre dignement. Donc ça, d'un point de vue socio-économique, c'est très important. Et puis pour les équilibres macroéconomiques de notre pays, là aussi c'est important parce que ce sont des réserves en devises qui arrivent pour nous, qui permettent de financer les importations du Maroc, d'acheter tout ce qu'il nous faut de l'extérieur en devises. Et donc là aussi c'est un impact très important pour notre monnaie, pour nos réserves de change.
Voilà, c'est sur ces mots, ces explications de Adil Hilmi que va prendre fin ce nouvel épisode de Economia. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.